Alors, on va continuer ce matin les actes des apôtres, donc notre traversée du livre des actes. Donc, pour ceux qui nous ont peut-être rejoints en cours de route, hein, le livre des actes explique le commencement de l'Église, comment l'Évangile a commencé à se répandre petit à petit après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Et l'un des propagateurs de l'Évangile, ça a été l'apôtre Paul, donc il est très présent dans ce livre des actes, apôtre qui a été aussi appelé l'apôtre des païens, et pourquoi ? Parce qu'il a parcouru tout l'Empire romain en parlant de Jésus, en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et dans le contexte ici, Paul est encore rejeté, et on a envie de le tuer, les Juifs veulent le tuer, les Romains se saisissent de lui, et puis il est ballotté un petit peu comme ça de droite et de gauche. On rappelle que les Juifs n'acceptaient pas le Messie Jésus-Christ. Alors, eh bien, ils étaient contre ce message. On va lire ensemble Actes chapitre 22, à partir du verset 22 jusqu'à 23, verset 30. Actes 22, verset 22. Ils l'écoutèrent, donc c'était l'apôtre Paul qui raconte son témoignage. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix disant « Ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. » Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet afin de savoir pour quel motif il criait contre lui. Comme on l'attachait pour le frapper, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain ?»« Oui, répondit-il. » Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte, parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens, et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis il fit descendre Paul, et il le plaça au milieu d'eux. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens, s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé ?» Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage. » Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40 et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger » jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun, pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. » Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance de ce guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda « Qu'as-tu à m'annoncer ?» Il répondit « Les Juifs ont convenu de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela deux des centeniers et dit « Tenez prêts, dès la troisième heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. » Il écrivit une lettre ainsi conçue « Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux, lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevai, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel il accusait, je l'amenai devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé, en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils ont à s'adresser eux-mêmes à toi, à Dieu. » On va s'arrêter ici. Donc c'était une bonne lecture qui nous montre un petit peu tout le contexte. Et au travers de tout ce texte, j'aimerais aborder ce matin le sujet de la protection de Dieu sur nos vies, sur notre existence. Aujourd'hui, on est poussé à avoir beaucoup d'assurance. Je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, mais on nous surassure sans cesse. On veut que tous les domaines, vraiment... Et on se demande des fois si c'est de la prudence ou bien si c'est un peu une surprotection abusive. Et il y a certainement un équilibre. Oui, il faut se prémunir du danger quand même. Il faut être sage. Dieu veut qu'on puisse aussi assurer ce qui est nécessaire. Mais en même temps, il y a une part de confiance. Il faut qu'on vive aussi dans la confiance. Et aujourd'hui, si le monde est dans une surprotection avec toutes leurs assurances, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas Dieu. Alors, ben oui, s'il n'y a pas Dieu, eh bien, il y a des raisons de s'inquiéter. Et alors, eh bien, on s'assure. Et puis, ça dépasse simplement la maison, le véhicule ou sa famille. On va commencer à assurer son téléphone, de peur de le perdre ou de le faire tomber dans l'eau. On va assurer ses moyens de paiement. On va assurer même son billet de train en cas d'annulation pour quelques euros. Je ne sais pas si vous avez fait ça déjà, mais quand vous lisez un peu les clauses, ben... Si vous décidez de ne pas aller, eh ben, ils ne vous rembourseront pas votre billet. Il y a des clauses tellement restrictives qu'il y a très peu de gens qui finalement bénéficient de l'assurance pour ce qu'elle est. Et Dieu veut qu'on ait une assurance, mais d'abord une assurance en sa personne, qu'on soit pleinement assuré par lui. C'est Dieu premièrement qui nous assure. Alors bien sûr... Et j'aimerais parler de ça, de la protection de Dieu. Il y a une protection réelle sur les enfants de Dieu, une protection qui ne va pas empêcher les épreuves, qui ne va pas empêcher un accident ou des maladies que Dieu permettrait. Mais la protection de Dieu n'en demeure pas moins vraie sur tous ses enfants, tous ceux qui lui appartiennent. Nous serons éprouvés selon la volonté de Dieu, mais à chaque fois nous serons aussi protégés au sein de nos épreuves. Et on en a une illustration ici avec l'apôtre Paul. Il est arrêté, lié, transporté, voilà, bougé de droite, de gauche. Il vit quand même une épreuve là, mais en même temps, il y a la protection de Dieu qui est avec lui et qui l'accompagne. D'abord, Paul est protégé à cause de sa naissance. Il est protégé à cause de son innocence. Et il est protégé aussi, on pourrait dire, par la providence divine. Et on peut dire que c'est le cas de tous les enfants de Dieu ou de tous les hommes qui viennent se réfugier sous les ailes du Seigneur. ils peuvent être protégés par naissance, par leur innocence et aussi par la providence. Tout d'abord, on voit que Paul va se trouver devant le tribun. Le tribun va demander qu'on lui donne la question par le fouet, simplement parce qu'il voulait s'enquérir du motif pour lequel eh bien, ils étaient en train de crier contre lui. C'est une méthode un peu expéditive hein, pour demander une question à quelqu'un. Peut-être qu'il aurait pu simplement lui demander. J'imagine que Paul lui aurait dit. Paul va être épargné de cet acte de torture, on va dire, hein, simplement à cause d'une chose, sa naissance. Pourquoi ? Parce que Paul était citoyen romain. Alors, d'où le tenait-il exactement ? D'où tenait-il sa citoyenneté ? On ne le sait pas parfaitement. Hein. Il est possible que son père, lui, l'ait reçu à prix d'argent, comme le tribun, ou que il ait rendu des services à l'État, je ne sais pas, et quelque chose eh bien, comme ça lui aurait permis de bénéficier de cette citoyenneté romaine. Mais pour être citoyen romain et de naissance, Paul dit de naissance, ça voulait dire qu'il était né de père citoyen romain. Et donc que son père eh bien, l'avait eu avant lui d'une manière dont on ne connaît pas. Donc Paul était à la fois pleinement juif, parce que pour être juif, eh bien, c'est de la mère, mais il était aussi pleinement romain, qui était juif aussi son père, mais qui avait la citoyenneté romaine, parce que pour être romain, eh bien, il fallait être né de père romain. Et on voit que son droit de naissance va lui assurer une protection. Tous ceux qui l'entourent, dès qu'ils vont apprendre qu'il est romain, ils vont commencer à se retirer, parce que, eh bien, on ne pouvait pas battre comme ça, lier comme cela un citoyen romain. Ils avaient une situation privilégiée à part. On peut relire les versets 26 à 29. À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant « Que vas-tu faire ? Cet homme est romain. » Et le tribun, étant venu, dit à Paul « Dis-moi, es-tu romain ?»« Oui, répondit-il. » Le tribun reprit « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il avait fait lier. Et là, personne n'ose le toucher. Paul est protégé du fait de sa naissance. Et j'aimerais prendre ce fait historique de la naissance de l'apôtre Paul comme une illustration d'une vérité spirituelle. Alors aujourd'hui, pour nous, bien sûr, il n'est pas du tout question de la citoyenneté romaine, ça n'a aucune importance. Mais la Bible parle d'une autre naissance, et c'est la nouvelle naissance. Et j'aimerais vous parler un petit peu de la nouvelle naissance. Paul, d'une manière charnelle, était né citoyen romain, mais la nouvelle naissance est quelque chose qui change les choses, comme sa naissance charnelle avait changé quelque chose. Un jour, un vieux religieux vient voir Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il ne vient de Dieu. » Et Jésus lui répond « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Jésus ici fait référence à une deuxième naissance. Et dans ce monde, on peut dire qu'il y a deux types d'hommes. Il y a les hommes qui sont nés une fois et les autres qui sont nés deux fois. J'ai un livre que je vous conseille qui est très bien. Le titre, c'est « Ils sont nés deux fois ». Donc, c'est Alfred Kuhn. Et c'est 94 témoins qui racontent, qui disent « Mais moi, je suis né deux fois ». Je vous pose la question, est-ce que vous êtes né deux fois ? Cette nouvelle naissance, cette deuxième naissance n'est pas une question d'être baptisé. Parce que malheureusement, certains ont déformé la nouvelle naissance et ils ont dit que cette deuxième naissance eh bien, s'opérait lors du baptême étant enfant. Mais la nouvelle naissance ne peut pas s'opérer par l'action d'une personne sur nous qui nous ferait baptiser ou qui nous aurait fait baptiser avec quelques gouttes sur le front. La nouvelle naissance, c'est une décision qui est consciente, qui est volontaire de venir et de croire en Jésus-Christ. Et il y a un beau passage dans les Écritures qui nous l'explique, j'aimerais qu'on le prenne ensemble, c'est l'Évangile de Jean, chapitre 1 et versets 12 et 13. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Si vous n'avez pas votre Bible, je vais vous le lire. Ici, il est dit, donc le contexte, tout le début du chapitre 1, c'est « Au commencement était la parole ». Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est venue en chair, et donc la parole, c'est Jésus-Christ. Et puis après, il parle de la lumière qui a été rejetée, la lumière, c'est Jésus-Christ. Et puis, il arrive à ces versets 12 et 13, où là, il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc la parole, la lumière, Jésus-Christ, on peut dire, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, c'est la nouvelle naissance, la seconde naissance, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et donc, cette deuxième naissance ne vient pas premièrement du sang, ça signifie qu'elle ne se communique pas par le sang, et donc d'une manière héréditaire ou de parents à enfants. Ce n'est pas parce qu'un couple né de nouveau va engendrer un enfant né de nouveau. Ensuite, cette naissance ne vient pas non plus de la volonté de la chair. Ça signifie que on ne naît pas de nouveau par sa propre volonté, parce qu'on le déciderait soi-même. Parfois, certains se marient, par exemple, ou bien certains se reconvertissent professionnellement, ou bien certains changent de philosophie de vie, ou bien d'autres vont abandonner une addiction, le tabac, l'alcool, je ne sais pas, la drogue. Et pour eux, c'est comme une nouvelle naissance. Ils disent, ouais, je revis. Vraiment, c'est comme une nouvelle vie qui m'est donnée. Mais la nouvelle naissance, selon la Bible, ce n'est pas quelque chose que l'on peut opérer sur soi-même et par sa volonté propre. Ça ne vient pas de nos efforts ou de notre volonté. Et puis enfin, cette dernière, la deuxième naissance, ne vient pas non plus de la volonté de l'homme. Donc, ça veut dire que quelqu'un d'autre ne peut pas, me faire naître de nouveau, comme des parents ne peuvent pas donner la nouvelle naissance à un enfant par le baptême. Mais la Bible dit que cette deuxième naissance, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui la donne. C'est une grâce, il a le pouvoir, il a la puissance de nous faire naître de nouveau. C'est son action dans notre cœur. Quand il dit naître une deuxième fois, bien sûr, ce n'est pas naître une deuxième fois charnellement. C'est ce que Nicodème a dit. Il a dit, mais comment ça? Faut-il rentrer de nouveau dans le sein de sa mère et renaître? Et Jésus lui dit non. Il lui dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Autrement dit, ces deux naissances, il y a l'une qui est charnelle par la chair, nous naissons de notre mère, et puis il y en a une qui est spirituelle. Elle vient de Dieu, c'est Dieu qui l'opère dans notre vie. C'est un petit peu comme s'il ressuscitait notre esprit, qui de nouveau peut avoir un contact avec l'Esprit de Dieu. Alors que nous étions coupés, séparés à cause de nos péchés, par la foi, la repentance, alors Dieu ressuscite notre esprit. Nous sommes de nouveau en contact avec Dieu. Dieu seul peut faire naître une deuxième fois. Maintenant, ça ne tombe pas sur l'un, tandis que cela ne tomberait pas sur l'autre. Certains pensent, ah, vous avez de la chance, vous, quand ils voient la foi chez une personne. Parce que même si c'est par la puissance et par l'action de Dieu, il y a quand même quelque chose chez l'homme qui permet ou ne permet pas la nouvelle naissance. Jean dit à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils l'ont accueilli, à ceux qui croient en son nom, ils ont exercé la foi, alors Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si on ne reçoit pas Jésus-Christ, si on refuse Jésus-Christ, si on ne croit pas en Jésus-Christ, alors on ne peut pas naître une seconde fois. Dieu nous appelle à recevoir le Fils de Dieu. Jésus est le seul sauveur. Il n'y a personne d'autre qui puisse nous sauver, nous pardonner nos péchés. Et De la même manière qu'on peut dire que l'apôtre Paul a été protégé du fait de sa naissance charnelle, tous les enfants de Dieu, ceux qui sont nés une seconde fois, sont protégés du fait de leur naissance spirituelle. Tous ceux qui sont nés une deuxième fois, eh bien, sont protégés en vertu de cette nouvelle naissance. Et j'aimerais, en écrivant ces choses, en y réfléchissant, je pensais au psaume 23. Et j'aimerais qu'on relise le psaume 23. Un psaume magnifique que même les incroyants connaissent. Et là, eh bien, c'est David, en tant que jeune berger, qui connaissait bien les brebis, qui connaissait bien aussi le travail de berger. Il est inspiré. Et il se dit, mais l'Éternel, finalement, il est un berger. C'est lui le vrai berger. Et nous, nous sommes comme des brebis. Alors, eh bien, il va écrire sous l'inspiration, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et bien que David ne pouvait pas encore connaître la nouvelle naissance parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort pour lui, il n'avait pas encore fait l'expiation des péchés, eh bien, néanmoins, David avait quand même foi en Dieu. Il était quand même enfant de Dieu. Et il nous révèle ici d'une manière juste la protection dont bénéficie l'enfant de Dieu. De même que David, ceux qui sont nés de nouveau peuvent dire aussi « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » De la même manière, le chrétien peut le dire. David était en fuite devant Saül. Et on peut dire qu'il est passé dans la vallée de l'ombre de la mort. C'était très difficile pour lui d'être persécuté. Il a été persécuté pendant une bonne partie de sa vie. Mais à chaque fois, Dieu l'a protégé. Et il peut dire, voilà, je sais que la brebis du Seigneur, elle a toujours des verts pâturages pour elle à sa disposition. Elle a toujours des eaux rafraîchissantes, paisibles. Il restaure l'âme de celui qui lui appartient. Et donc, il pourvoit à ses besoins physiques, il pourvoit à ses besoins intérieurs, spirituels. Et même dans les moments de crise, Dieu donne de l'huile. Et même la coupe déborde. Ici, l'huile, l'image du Saint-Esprit. Et finalement, quand on lit tout ce psaume, eh bien, ça nous montre vraiment la grâce, la protection qui repose sur l'enfant de Dieu. Et celui qui croit en Christ, il reçoit une protection à cause de sa filiation maintenant avec Dieu. Il est né de nouveau, il est enfant de Dieu, alors eh bien, il est sous la main de l'Éternel. L'Éternel est son berger. Dieu ne pourra pas laisser les choses comme si il n'est pas notre berger. Si nous l'avons accepté, alors eh bien, il sera toujours son berger, il prendra toujours soin de sa brebis, même si elle passe par la vallée de l'ombre de la mort. Et j'aimerais juste donner un exemple. C'est l'histoire du premier martyr dans les Écritures, et c'est Étienne, dans le livre des Actes. Étienne, quand on regarde son histoire, on peut se dire, mais où est la protection de Dieu, là ? Il est lapidé à cause de sa foi. Où était Dieu ? Est-ce que Dieu ne le protège pas ? Mais comme je le disais, le fait d'être enfant de Dieu, eh bien, ça n'empêche pas des épreuves, ça n'empêche pas de la souffrance, ça n'empêche pas des difficultés. Mais même au travers de cette lapidation, on voit que Dieu repose sur Étienne. Comme le disent les Écritures, on peut dire qu'il y avait l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire qui reposait sur sa personne. Étienne est lapidé, et là, il voit Jésus. finalement, le fait de passer par cela, ça lui amène à voir Jésus d'une manière plus distincte. Il est plus proche de Dieu. Étienne est lapidé et il a une pensée, mais une pensée qui est renouvelée, une pensée divine qui lui permet de dire, mais pardonne-leur. Pardonne-leur ce qu'ils font à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour avoir cette pensée sincère qui monte du cœur, il faut vraiment être proche de Dieu. Et puis finalement, Étienne s'endort. Il s'endort pour rejoindre son Sauveur. Et Étienne n'est pas mort dans un sentiment d'abandon, de solitude, comme certains athées sont morts. Il y a des témoignages terribles de personnes qui sont mortes dans la solitude et le désespoir et l'angoisse à l'idée des ténèbres. Mais il meurt dans le repos de la foi. Il rejoint son Seigneur, son Sauveur, son berger. Et on peut dire qu'il y a une grâce particulière sur ceux qui appartiennent au Seigneur. Étienne n'allait pas être condamné au jour du jugement. Il était en train de se diriger vers un père et vers un frère, lesquels l'avaient aimé avant que lui, ne les aime. Parce qu'il y a une protection sur tous ceux qui sont nés de nouveau. On peut vivre des épreuves, mais rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Alors je vous pose la question, est-ce que vous êtes né deux fois? Est-ce que vous êtes passé par cette seconde naissance qui ne vient pas de vous, mais qui vient de Dieu, mais qui attend de vous que vous la désiriez et que vous puissiez dire à Dieu, « Oui, je crois en Jésus-Christ. Sauve-moi, pardonne mes péchés, donne-moi la vie éternelle. » Il faut recevoir Christ, il faut croire en Christ. L'apôtre Paul a été protégé à cause de sa naissance et il a été protégé aussi à cause de son innocence. Regardez Actes 23, verset 1. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Et on peut dire que la deuxième chose qui assure une protection, c'est notre innocence, par le fait de maintenir une bonne conscience. Paul était irréprochable parce qu'il essayait de garder cette bonne conscience devant Dieu en toute chose. Et finalement, les religieux juifs n'avaient rien à lui reprocher de valable. Ils n'avaient rien. Et Paul le leur dit. Et si le chrétien est protégé, il est protégé parce qu'il demeure et quand il demeure dans l'innocence et dans une bonne conscience devant Dieu. Quand on lit l'épître de Pierre, par exemple, on voit ce verset qui dit « Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. » Donc, ça veut dire qu'il est possible, finalement, que nous souffrions, mais pas parce que c'est une épreuve permise par Dieu, mais parce que, bien, nous n'avons pas bien fait. Et nous retirons ensuite les conséquences de choses que nous n'aurions pas dû faire. En étant meurtrier, c'est l'exemple qui est donné. Alors peut-être pas en acte, mais parfois en parole, on est meurtrier. Avec notre langue, on peut être meurtrier, assassin. Ou en tant que voleur, peut-être pas d'une manière franche, mais d'une manière un peu détournée. Ou bien parce qu'on a fait du mal. Ou parce que, on s'est ingéré, là, on a été creusé, là où on aurait dû, s'abstenir. Et c'est une chose que d'être accusé faussement, et c'en est une autre que d'être accusé alors que, on est vraiment coupable, réellement. La Bible dit, on récolte ce que l'on sème. Et comme dit le prophète Osée, parfois on sème le vent et on récolte la tempête après. Et malheureusement, même les chrétiens peuvent faire taire leur conscience quand ça les arrange. Il y a des études, puisqu'il y a beaucoup plus de chrétiens aux États-Unis, il y a des études qui ont été faites parmi les milieux chrétiens et évangéliques. Et sur plusieurs domaines, c'est pas très blanc, intègre. Par exemple, quand il s'agit de remplir sa feuille d'imposition, certains perdent leur intégrité. Quand ils sont étudiants, quand on est étudiant, il peut y avoir une perte d'intégrité là avec du plagiat. Aujourd'hui, c'est facile d'aller sur Internet, essayer de copier, modifier un peu pour que le logiciel qui essaye de voir ces choses ne le reconnaisse pas, mais finalement, eh bien, aller prendre les idées d'un autre. C'est ce qui s'est passé avec le rabbin de France, qui malheureusement a fait cela. Après, d'autres exemples, c'était donner un dessous de table pour un permis de construire. Ou bien ne pas se conformer aux lois qui concernent la construction. On se dit, oh, ben alors, personne ne le verra, c'est dans le jardin, tout va bien. Et puis, hop, on se permet de faire quelque chose. Ou bien copier illégalement des programmes d'ordinateur. Oh, il vaut trop cher celui-là. Donc, c'est pas du vol. Ou bien voler du temps. Le sondage disait que les employés, en moyenne, pouvaient perdre leur temps pendant 7 heures par semaine. C'est-à-dire 7 heures où ils sont au travail, mais ils ne travaillent pas, ils ne font pas ce qu'ils devraient faire. Après, il y avait l'idée aussi d'exagérer la valeur d'un produit. Donc, tous ceux qui sont dans le commerce, ou des fois, on est limite vérité. Dire aux gens ce qu'ils veulent entendre plutôt que leur dire la vérité ou ce qui est juste. Obéir aux lois d'une manière sélective. Oh, ça, c'est... ça me paraît pas juste, donc non, je n'y obéis pas. Celle-là, elle me paraît juste, je vais obéir. Et finalement, on fait le choix des lois auxquelles on veut obéir. Si Jésus avait dit « Ah, mais c'est pas juste de donner un droit de passage, la terre m'appartient », mais Jésus a dit « Non, paye, vas-y, rends à César ce qu'il y a à César. » Respecter la vitesse seulement quand on voit un radar. C'est fou le nombre de gens qui accélèrent brusquement et passent bien au-delà de la vitesse une fois qu'ils ont passé le radar. Télécharger des films dans son ordinateur. Peut-être qu'avec la loi Adopi, ça a stoppé un certain nombre, mais c'est quand même une pratique courante. Et par rapport à cette liste de sujets plus actuels, on voit qu'il est possible d'être un peu limite finalement. On n'est pas tout à fait innocent et on perd notre intégrité, on perd cette bonne conscience devant Dieu. Paul, lui, il était innocent, parfaitement innocent. Alors, il se sentait à l'abri, sous la protection de Dieu. Et c'est important que nous aussi, on reste à l'abri dans l'innocence, avec une conscience pure. Et même Paul est plein de hardiesse dans son innocence, parce qu'il sait. Et là, le souverain sacrificateur ordonne de le frapper sur la bouche. Alors, il réagit, il dit, mais il se permet de le reprendre. Verset 3, donc chapitre 23. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Et Paul pensait certainement que c'était l'un des prêtres et pas le souverain sacrificateur. Alors, eh bien, versets 4 et 5, ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Et là, on voit que la bonne conscience de Paul, c'était pas simplement, il disait pas simplement ça comme des paroles, comme des mots, mais c'était une réalité. Il vient là de transgresser la parole de Dieu, immédiatement, il le reconnaît. Je n'aurais pas dû le faire. Il sait parfaitement ce que Dieu dit et il veut obéir à ce que Dieu dit. Et c'est ça, garder une bonne conscience devant Dieu. C'est vouloir obéir à ce que Dieu dit et ne pas essayer de louvoyer. Parfois, on sait ce que Dieu dit, mais on passe outre. Parce que si on se dit, oh, c'est pas très grave, c'est une petite chose. Quand on sait ce qu'il dit, il faut faire ce qu'il dit. Paul voulait avoir tout le temps cette bonne conscience devant le Seigneur pour être libre, léger et sûr que Dieu le protège et l'accompagne. Mais même... il ne cherchait pas simplement à avoir une bonne conscience devant Dieu, il voulait aussi une bonne conscience devant les hommes. On le voit au chapitre 24, juste après, chapitre 24 et verset 16. Et il dit « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Alors bien sûr, avoir une conscience sans reproche devant les hommes, Paul ne pouvait pas plaire à tous les hommes. Mais en tout cas, il essayait d'avoir une bonne conscience et de ne jamais rien faire contre ou d'une manière qui aurait été une désobéissance à Dieu. Il voulait être en paix avec tous, tout en disant la vérité. Et on peut dire que la protection de Dieu, elle est vraiment sur celui qui se tient dans cette attitude, parce qu'il est inattaquable. Mais si notre vie en porte à faux, alors on n'est plus sous la protection de Dieu. On ne cesse pas d'être son enfant, mais soudain, c'est comme s'il y a une ouverture dans la cuirasse, un défaut. Et là, le diable peut venir planter une flèche, c'est facile pour lui. C'est ce qui s'est passé d'une manière tragique dans l'église de Corinthe. Vous savez, avec cet homme qui est tombé dans la débauche, à ce moment-là, l'église a pointé le doigt sur lui, et puis Satan a pu aussi le cribler. Dieu veut qu'on soit assis dans les lieux célestes, avec lui. C'est là où on est protégé, à l'abri des coups de l'ennemi. C'est là où on a une position qui est inatteignable, innocent. On est caché en Christ. Enfin, pour terminer, l'apôtre Paul a été protégé aussi par la providence. Et si on est passé par la nouvelle naissance, et si on se maintient dans une bonne conscience, alors on peut être assuré que la providence, elle sera aussi avec nous. Elle sera toujours là. Et c'est ce qui s'est passé pour Paul, qui était victime maintenant d'un guet-apens. Alors quelqu'un a dit que ce n'était pas Ali Baba et les 40 voleurs, c'était Ananias et les 40 tueurs qui voulaient lui faire du mal. Et comme les Juifs n'avaient pas la liberté de pouvoir tuer Paul, alors ils vont essayer de lui tendre un piège. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Paul est en danger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien en fait. C'est Dieu qui s'occupe de ça. Il va gérer la situation, il va protéger l'apôtre Paul parce que, il est protégé du fait de sa naissance, et je dirais de sa nouvelle naissance, et parce qu'il est protégé aussi du fait de son innocence. Il est irréprochable. Alors Dieu, la providence de Dieu fait que la protection repose sur lui. Le piège est déjoué et même Dieu envoie, je crois, presque 500 hommes, pas loin de 500 hommes pour l'escorter et le mener en lieu sûr. N'a rien à craindre. Et quand on est dans cette attitude-là, on n'a rien à craindre. Personne ne peut mettre la main sur nous. Et quand on lit les témoignages, les histoires qui nous montrent la protection de Dieu sur les enfants de Dieu, sur ceux qui sont nés de nouveau, mais elles sont fréquentes. Il y a plein d'histoires. Et j'aimerais vous en citer une que j'ai retrouvée hier. C'est l'histoire de Ira Sankey. Sankey, en fait, c'était un peu le chef de file qui s'occupait de toute la louange et des cantiques lors des réunions de Moody. Moody, c'était un célèbre évangéliste aux États-Unis qui a provoqué des réveils. Et donc, il y avait souvent quelqu'un qui s'occupait des cantiques, cantiques au début et puis cantiques d'appel à la fin, lors de ces réunions d'évangélisation. Ce qui fait que Sankey était connu aux États-Unis parce que sa photo avait été dans les journaux. Et un jour, il était sur un bateau à vapeur, sur un fleuve aux États-Unis. Et à ce moment-là, les gens l'ont reconnu. Et alors, ils étaient tout contents de voir qu'il était là. Alors, ils lui ont demandé, « Mais est-ce que vous pouvez nous chanter un de vos chants ?» Parce que Sankey a composé des chants. Et puis, il était un peu gêné de chanter ses chants. Il a dit, « Je vais vous chanter un chant de Bradbury. » Et c'est un cantique que nous connaissons. C'est « Bon sauveur, berger fidèle. »« Bon sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour. Nourris-nous, comment dit le cantique ?» Nourris-nous chaque jour, et que sous ta main paternelle, nous vivions jour le jour. Et dans la version originale, en anglaise, la strophe, il y a une strophe qui dit « Nous sommes à toi, tu nous lies d'amitié, sois le gardien de nos voies. » Et donc, Sankey a chanté ce cantique. Et puis, une fois qu'il l'a terminé, un homme qui était sur le bateau est sorti de l'ombre et lui a posé une question. Il lui a dit, « Est-ce que vous avez servi dans l'Union ?» Hein, il y avait les confédérés et l'Union lors de la guerre de sécession. « Est-ce que vous avez servi dans l'Union ?» Alors, il a dit, « Ben oui, au printemps 1960. Hein. » Et alors, l'autre a dit, « Mais est-ce que vous pouvez vous souvenir d'une nuit avec une pleine lune en 1862, alors que vous étiez de garde ?» Et Sankey dit, « Oui, il est surpris. » Et alors, lui dit, « Moi aussi, mais moi, j'étais de l'autre côté, dans l'armée confédérée. Quand je vous ai vu au bout de mon fusil, je me suis dit, celui-là, c'en est terminé pour lui. » Et alors, eh bien, il raconte, « Vous avez levé les yeux au ciel et vous êtes mis à chanter ce cantique que vous venez de chanter. » Et je me suis dit, « Qui chante sa chanson jusqu'à la fin ?» De toute façon, il n'y aura pas de problème pour l'avoir, ma balle l'atteindra. Et puis, alors, il a chanté le cantique. Et cet homme qui est sorti de l'ombre dit que tout le cantique a fait ressurgir des souvenirs dans son âme. Il a repensé à sa mère qui lui chantait ce cantique. Il a repensé à toute son enfance. Et puis, au fur et à mesure qu'il entendait, petit à petit, il est devenu dans l'impossibilité de tirer sur Sankey. Et il a baissé son arme. Et là, il était heureux, finalement, de le retrouver. Alors, certains mettent tout sur le compte du hasard. Il nous arrive des grâces particulières. On dit, oh, certains disent, c'est le hasard. Je lisais une citation d'Albert Einstein qui disait, « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. » C'est pas mal, ça, hein, quand on croit au hasard. Finalement, c'est Dieu, mais incognito. Il n'y a pas de hasard. Et Dieu a sa main sur ses enfants, main qui est protectrice, hein, ou ceux qui deviendront ses enfants. Parce que parfois, vous savez, on est converti, on est venu à Jésus-Christ, et puis on se retourne vers le passé et on regarde sa vie. Et on se dit, mais là, c'est Dieu qui m'a protégé. Hein, ce n'était pas le hasard. Hein. Et là, c'est encore Dieu qui a fait grâce. Et là aussi. Et alors, eh bien, il y a de la louange qui monte vers le Seigneur. Dieu oriente, Dieu garde, Dieu conduit. Il fait grâce. Alors, eh bien, je termine en disant, croyons en Dieu, croyons en Jésus-Christ. Recevons le Fils de Dieu. Si vous n'êtes pas né une deuxième fois, alors, eh bien, désirez-le ce matin. Dites, Seigneur, je veux être en sécurité. Sauve-moi. Ensuite, marchons en gardant une bonne conscience. Veillons à cette bonne conscience, qui est aussi le garant de la main de Dieu qui nous garde et nous protège. Et alors, eh bien, la providence va nous garder de tout mal. Et j'aimerais juste terminer avec ce verset qui est derrière moi. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.